Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Le comédien André Dussollier est aujourd'hui notre invité. Au départ, nous voulions avec lui parler de la décontraction, la feinte décontraction de l'acteur, résultat d'un travail acharné et d'une grâce qui est sans doute innée. Et puis nous avons pensé au charme de son sourire et nous nous sommes dit que ce sourire serait au centre de notre émission. C'est alors que s'est imposée à nous sans prévenir la souplesse d'un interprète qui navigue du cinéma au théâtre et ondule littéralement sur les planches. Or, qui dit souplesse dit mouvement, dit voyage, dit déplacement. Rêverie. Et nous en étions là de notre cheminement intérieur quand soudain les mots accord, arpège, gamme ont surgi au fond de notre cerveau, bientôt rattrapés par ceux de croisière, océan ou embrun. Il fallait donc suivre une piste, mais laquelle? Quelle porte ouvrir pour qu'au micro d'une saison au théâtre, André Dussollier, qui joue actuellement sur la scène du Théâtre Saint-Martin dans Novecento, d'après un texte d'Alexandro Barrico, se sente ici chez lui et n'ait plus jamais, jamais, jamais envie de quitter notre studio. Alors nous avons tranché, et c'est à ces lettres A comme André et D comme Dussollier que nous ouvrons aujourd'hui notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire dans son regard, sur ses lèvres, ça voulait dire que je pouvais monter. Et que ma trompette et moi, on était engagés. Là-haut.
Rayon Vancouver, Vancouver, Cork, Cork, Southampton, Southampton, Liverpool. On jouait longtemps. Toute la nuit, parfois. Parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. C'est un marin appelé Danny Boodman qui l'a trouvé dans une boîte en carton. Il devait avoir 10 jours à peine. Les parents avaient dû se dire, si on le laisse sur le piano dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un riche le prendra et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un pari osé.
Bonjour André Dussollier. Bonjour. Est-ce qu'il est préférable, lorsqu'on est acteur de théâtre, d'avoir le goût du voyage et le pied marin?
Ah oui, oui, oui. Pour moi, c'est la définition même du métier de comédien. C'est même le plaisir du métier de comédien. C'est de passer d'un rôle à l'autre, d'un univers à l'autre, donc d'avoir le pied marin et d'être souple, en effet, pour pouvoir jouer un petit peu tout. D'abord, c'est vraiment le plaisir. Un plaisir partagé avec le spectateur. Moi-même, quand je suis spectateur dans une salle de cinéma ou de théâtre, j'aime bien voir les acteurs qui se métamorphosent d'un rôle à l'autre. Et c'est agréable de les voir nous surprendre.
Qu'est-ce qui est si fort, si puissant et si nécessaire chez le comédien qui fait qu'il va surmonter le trac qui est le sien et remonter chaque soir en scène, qu'il va dépasser sa peur?
Le travail. Il y a une phrase de Dubillard qui est pas mal, qui dit « il faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. » Donc de toute façon, le trac, il faut se lancer à un moment donné ou un autre. Mais c'est le travail peut-être qui permet au moins de vous donner l'impression d'avoir fait tout ce que vous pouviez faire. Et puis après, c'est vrai que chaque soirée est tellement différente. On nous le dit souvent, pourtant on répète les mêmes mots, bien sûr, mais le public est différent. Vous-même, l'humeur peut être différente. Les partenaires, tout ce qui peut se passer, c'est la vie quoi qui est changeante à chaque fois. Donc du coup, il faut être prêt à accueillir cette nouveauté de chaque soir. Et donc, ça, c'est la bonne surprise qui peut arriver et qui vous fait oublier le trac.
Mais ça vous est arrivé, André Dussollier, de vous apercevoir que soit il n'y avait pas de parachute, soit le parachute ne s'ouvrait pas?
Ah oui, oui, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais en même temps, on ne sait pas pourquoi, on se raccroche toujours. Il y a toujours un toit bien vieillant, une tente, une branche d'arbre. Je ne sais pas où les mots. Ça m'est arrivé quelques fois, c'est surtout avec Dubillard que je citais à l'instant. C'est lui, un jour, qui dans le bain de vapeur a eu un grand trou et c'était absolument impossible de l'aider. J'étais avec Yvonne Clèche en scène, j'étais avec Darico. Cole aussi, c'était une création, le bain de vapeur. Et vraiment, c'est un théâtre absurde, c'était impossible. Donc il s'est pas démonté, il est allé en coulisses, il a regardé par-dessus l'épaule du régisseur, il a dit, bon, ben, comme le dit ce jeune homme, donc il a enchaîné comme ça. Mais il y a des endroits qui sont vraiment très difficiles. Mais en même temps, on improvise, quoi. On s'adapte, on connaît l'histoire. Donc, ma foi, c'est à nous de feindre d'en être l'auteur.
C'est quand même tout un art, hein, André Dussolier.
Oui, c'est notre travail, c'est notre art, c'est de donner l'impression aux spectateurs. Il y a un terme que j'aime beaucoup dans notre métier, on ne doit pas voir la couture, quoi, entre le travail qu'on peut faire et puis la sensation qu'on donne aux spectateurs que tout ça est improvisé ou sort naturellement chaque soir. Voilà, c'est lui donner l'impression, c'est l'impression que j'ai eue, d'ailleurs quand je suis arrivé au théâtre, j'avais 10 ans et que j'ai découvert des acteurs en scène, c'est l'impression que tout d'un coup on voit des gens vivre comme ça, librement chez eux, sans se soucier du regard des autres, et cette liberté-là, c'est cette possibilité de les voir comme ça, sans tabou, sans retenue, fait qu'on éprouve un plaisir décuplé.
Voilà 4 ans que vous interprétez, cette fois sur la scène du Théâtre Saint-Martin, mais c'est arrivé que vous jouiez dans d'autres théâtres, parisiens et ailleurs, Novecento, d'après Alessandro Baricco. On vient d'entendre un teaser de ce spectacle, qui est à la fois un spectacle bondissant et très profond. 4 ans donc que vous racontez, André Dussolier, l'histoire de ce bébé abandonné dans un paquebot sur un piano et qui ne quittera plus ni ce paquebot ni ce piano puisqu'il deviendra un serviteur virtuose de l'art pianistique et il ne mettra jamais pied à terre. De quoi est-ce que ce conte imaginaire est-il la métaphore selon vous ?
Ah, il y a plusieurs choses qu'on peut lire à travers ce conte, en effet. Je pense même que ça a dû arriver peut-être que dans les années 30, quand les Italiens embarquaient sur ces transatlantiques pendant 6 jours pour aller en Amérique chercher fortune ou une vie meilleure, abandonnent l'enfant sur un bateau parce que quand on s'inscrit et qu'on part à 2, il faut arriver à 3. Le service d'immigration là-bas aux États-Unis étant très très rude et renvoyant les gens s'ils arrivaient pas dans le nombre dit au départ. Donc c'est des éléments comme ça un peu réalistes sur lesquels Alessandro Baricco s'est appuyé. Et puis après, il en a fait un conte. Et moi, je suis sensible à ce conte et à cette histoire de Novecento qui représente un personnage justement autodidacte, libre. Il est élevé par les membres de l'équipage et il apprend le piano. Et il est absolument époustouflant parce que il a une grande liberté et il ne descend jamais à terre parce que... Alors c'est là que le conte aussi de Baricco prend tout son intérêt, son ampleur. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que à terre, souvent, on s'y perd, on s'émiette, comme disait René, que j'ai beaucoup fréquenté. C'est vrai qu'on risque de se perdre en route, quoi. On fait la bataille avec les autres, on essaye de s'étalonner, de se comparer aux autres et on n'est pas aussi fidèle à soi qu'on devrait l'être. Tandis que Novecento, lui, les 88 notes de son piano lui permettent d'aller le plus loin possible. Et donc, quand on lui propose de descendre à terre, ça le tente pas beaucoup, il serait plutôt perdu et il a l'impression d'aller très loin en restant sur son piano. Ça se discute, hein, tout ça, mais enfin, c'est séduisant.
Je voudrais vous faire écouter plusieurs voix, si on en a le temps dans cette émission, André Dussolier, et démarrer par celle de l'auteur de Novecento. Il s'agit donc d'Alessandro Baricco, interviewé en 2017 sur France Culture.
Je crois qu'une moitié des pages de mes livres sont placées dans un déplacement. Et souvent, c'est vraiment le mouvement principal de cette histoire-là. Dans Novecento, il voyage tout le temps dans un navire qui vient de l'Europe, va en Amérique, vient de l'Amérique, va en Europe, tout ça. Le début, les premières pages que j'écris dans ma vie sont quelqu'un qui dit « il va arriver ». Donc, c'est toujours un déplacement. Souvent, ils sont dans des lieux qui sont des terres de confines. La première partie d'Océan Mer, c'est toute sur la côte, sur la rivière, comme ça. Donc, c'est des lieux qui n'ont pas un statut précis. C'est la mer ou pas, c'est déjà la mer ou pas. C'est encore la terre, mais non, pas complètement. Donc c'est vrai, voilà. Le signifiant de tout ça m'échappe complètement.
Et à vous, est-ce qu'il échappe, André Dussolier, le signifiant de ce mouvement, de ce déplacement perpétuel qui colle à la peau des héros de Baricco et notamment de ce personnage de Novecento ?
Oui, alors chacun, encore une fois, ça m'a fait plaisir de l'entendre parler de ça, parce que c'est vrai que le mouvement, je pense à d'autres romans comme Soi, comme d'autres, enfin, c'est vrai que quand j'y pense, il y a souvent cette espèce d'errance ou d'itinérance, enfin, d'itinéraire comme ça de chaque personnage. J'ai l'impression, en tout cas, que les personnages appartiennent à eux, à leurs désirs, à leurs envies, à leurs rêves. C'est un peu le cas de Novecento, j'ai l'impression qu'il est fidèle à lui-même, quoi. C'est un peu ça que je lis à travers cette histoire, et c'est ce qui nous parle, et ce qui parle beaucoup d'ailleurs aux jeunes qui viennent voir le spectacle, parce que tout d'un coup, on ne nous oblige pas à tracer notre voie en fonction de ce que nous disent les référents, les adultes, les écoles. Novecento, il joue de la musique comme il l'entend quand il est en Europe, Debussy, Ravel, dans ces années-là, et puis le jazz qui commence à naître. Il a toujours une traversée d'avance parce qu'il entend toutes les musiques. Et j'avais entendu, moi, Jacques Loussier, dans les années 70, jouer Bach en jazz. Eh bien voilà, on a essayé de restituer ça pour raconter en musique ce qui se passe, et pour Novecento qui joue Bach en jazz parce qu'il a toutes, il se permet toutes les libertés.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, André Dussolier, mais vous êtes sur scène tout seul comme acteur, mais il y a des musiciens qui jouent en live avec vous et avec qui vous êtes en dialogue, oui, et en harmonie. Et la question du mouvement se pose aussi lorsqu'on vous regarde, vous, en tant qu'interprète, pas seulement parce que vous bougez énormément hein, sur la scène du théâtre, vous déplacez, pour reprendre ce mot de déplacement, mais c'est une ondulation, c'est quelque chose dont on sent que ça vous est aussi intérieur, que le rythme des mots sans doute s'est imprégné en vous. Et je me demandais comment se posait pour vous la question de l'équilibre et du centre de gravité. Quel est pour vous le centre de gravité sur cette scène de théâtre à Saint-Martin, André Dussolier, avec ce texte-là?
Eh bien, comme sur un bateau, c'est-à-dire que le centre vous de tanguez gravité, il se déplace, je tangue en effet, et selon l'humeur, les moments de la traversée, ça dure 6 jours et il se passe beaucoup de choses, il y a une tempête, il y a des personnages entre la première et la troisième classe qu'on rencontre, qui parlent et que j'interprète. Bon, et donc du coup, le centre de gravité, c'est un peu au milieu de chaque situation, c'est chaque situation qui l'impose, quoi. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a la musique qui est là. Baricot, d'ailleurs, n'était pas tout à fait favorable, il ne me l'a pas interdit, mais de mettre, parce qu'il n'a pas conçu ce spectacle ou ce texte-là avec la présence de musiciens en scène. Mais je pensais que la musique, non pas, ne devait pas être une musique d'accompagnement, bien sûr que non, j'aime pas ça, mais par contre une musique qui pouvait être un personnage à part entière et qui prolonge l'émotion du récit ou ce qu'on peut ressentir à travers ce qui se passe, quoi. C'était les mots. Moi, j'ai fait allusion à René tout à l'heure, mais j'ai beaucoup pensé à On connaît la chanson, parce qu'On connaît la chanson, il y avait des chansons comme ça qui habitent nos vies et qui intervenaient et qui avaient toute une grande valeur, quoi, et qui pouvaient remplacer quelques répliques ou des pans de scène et qui pouvaient permettre au personnage de s'exprimer par le biais d'une chanson comme ça qui intervient comme ça brutalement, comme elles peuvent l'être dans nos têtes. Eh bien, là, c'est la même chose. La musique intervient parce que elle parle à la place des mots, elle dit des choses que Baricot pourrait dire. Et puis, même, on s'est offert le luxe de pouvoir dialoguer aussi. Enfin, je dialogue avec Novecento qui me répond en musique. Mmh. Voilà. Donc, je pense que la musique est vraiment un personnage essentiel. C'est un musicologue, hein, Baricot. Donc, il connaît bien, il en parle beaucoup de cette musique-là. Et il disait, ben, j'en parle tellement que c'est peut-être pas la peine de mettre une réalité musicale, mais en même temps, je pensais vraiment que c'était, il y avait la place, quoi.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
André Dussolier, qu'est-ce que ça fait un premier prix de comédie? Ça ouvre des portes, ça.
Ça ouvre des portes, oui.
Ça déroule des tapis rouges.
Ça ouvre des portes. C'est pour l'instant, on est pour l'instant avec, enfin, moi personnellement, Francis, peut-être moi, mais dans un embarras assez agréable parce que on est tout de suite attiré par la comédie française, par le répertoire, surtout la comédie française. Et puis moi, de mon côté, j'aimerais pas lâcher le cinéma que j'ai commencé à découvrir avec François Truffaut il y a pas tellement longtemps. Et je sais pas s'il est possible de concilier les deux. J'aimerais.
La comédie française, c'est très attirant.
C'est très attirant pour le répertoire, mais à mon âge, c'est un peu impressionnant et peut-être ça peut freiner nos ambitions à cause de toute la machinerie et de l'organisme assez impressionnant que ça représente.
Aujourd'hui, vous vous sentez un autre homme ?
Oh non, pas du tout, non, pas du tout, on a encore beaucoup à apprendre.
Est-ce que sur votre carte de visite, c'est déjà imprimé ?
Non, pas du tout, je n'ai pas de carte de visite.
Alors, est-ce que vous avez fait l'acquisition de cartes de visite depuis 1972?
Toujours pas.
André Dussolier, puisque cette archive date de juillet 72, vous veniez d'obtenir le 28 juin 1972 le prix ex aequo de comédie avec Francis Perrin, vous sortiez du conservatoire. Est-ce que vous avez eu, parce qu'en l'entendant ce que vous dites en 72, j'aimerais ne pas avoir à choisir finalement. Vous avez eu du mal parfois à choisir? Les questions de choix se sont posées pour vous?
Oui, souvent, parce que c'est vraiment un plongeon dans l'inconnu à chaque fois quand on va travailler avec un metteur en scène, surtout au théâtre, parce qu'au théâtre, c'est vraiment frontal le rapport avec un metteur en scène. On est vraiment très vulnérables, nous, acteurs. Et donc, je suis rentré dans une période, dans les années 70, où c'était vraiment, ça l'est encore un peu, mais le règne du metteur en scène, avec la vision qui était beaucoup plus importante, la vision du metteur en scène, que la parole de l'auteur, presque à certains moments. C'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment un éclairage et quelquefois c'était vraiment, moi j'ai connu des metteurs en scène extraordinaires, hein, Giorgio Sreder, Peter Stein, aujourd'hui Ostermayer, enfin Ariane Louchkine. Bon, vraiment je les adore parce qu'ils mettent en valeur, là au théâtre d'ailleurs de la Porte Saint-Martin, j'ai vu récemment Emma Rivaud mise en scène par Catherine Yagel, c'était magnifique. Donc du coup c'est vrai que c'est un plaisir quand un metteur en scène prend en main une pièce, mais quelquefois pour un acteur ça peut être conflictuel, difficile, délicat, parce qu'on sent les choses et on sait que lorsqu'on nous impose de faire quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, c'est compliqué, c'est difficile, quoi. Voilà. Donc c'est une humilité supplémentaire dans le travail de l'acteur, le théâtre.
Alors il y a un choix que vous avez fait, on en a rapidement parlé, je voudrais qu'on y revienne parce que c'est intriguant quand même, un acteur qui pendant 4 ans, vous, oui, ses soirées, pas toutes, mais quand même beaucoup, à un seul et unique texte. Ça fait 4 ans que vous jouez ce Novecento. Oui. Et j'aimerais savoir, André Dussolier, si vous le jouez parce que chaque fois que vous le jouez, vous y trouvez des questions nouvelles, ou alors c'est parce que vous y trouvez des réponses aux questions que vous posez.
Le théâtre offre ça aux acteurs. C'est-à-dire, c'est comme si vraiment j'avais l'impression, la possibilité, la chance de pouvoir creuser en profondeur. Je me souviens d'ailleurs, pardon, j'ai fait allusion, mais avec le cinéma, vous voyez, ça n'a rien à voir, mais c'était une pièce de théâtre. C'était Mello qui avait mis en scène René. Et au début, on avait répété, on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire ce film. On avait répété pendant 23 jours pour que vraiment René puisse tourner en 20 jours à peine. Et donc, on avait vraiment travaillé beaucoup en amont. Et au début, quand je jouais le rôle, je faisais beaucoup de gestes, j'avais l'impression de suppléer l'expression des mots par des gestes, etc. Au fur et à mesure des répétitions, je suis devenu beaucoup plus économe. Ben, le théâtre, ça offre ça, c'est-à-dire c'est un travail, on creuse en profondeur, et chaque soir c'est un peu différent, on découvre des choses du texte en effet. Ah, tout d'un coup, ça vous ouvre des horizons, enfin ou des possibilités, des envies de faire passer des petites choses à travers juste une phrase, ou un mot, ou une situation, ou un moment. On a l'impression de devenir un petit peu le prolongement de l'auteur. Je ne veux pas dire l'auteur lui-même, mais le prolongement un petit peu. Et je revendique un peu cette place de l'acteur qui peut, en effet, être auteur lui-même et raconter, à travers les silences et à travers son interprétation, des choses qui sont vraiment au-delà des mots, quoi. Et c'est un plaisir renouvelé, surtout si, par exemple, on sent que l'histoire fonctionne, ce qui est le cas avec Novecento.
Mais est-ce que, en tant que comédien, vous vous autorisez aujourd'hui des gestes ou des, je sais pas, des temps d'arrêt, des temps de silence que vous ne vous autorisiez pas au tout début parce que ça s'est assoupli et que vous faites corps aujourd'hui avec ce texte?
Eh ben, c'est le grand piège du travail. Quand on joue une pièce comme ça aussi longtemps, on est à la 330e représentation, c'est évidemment la répétition et le mécanisme. Ça allait tout le temps pour un comédien, ce danger-là. Mais quand on joue au théâtre tous les soirs, c'est fatal, quoi, qu'on n'y ait pas une espèce de découverte, de fraîcheur. Donc, on doit travailler. Et le travail, pour moi, repose beaucoup sur... Ah, le silence. Je peux pas dire autre chose, c'est-à-dire que c'est à partir du silence qu'il peut y avoir entre les mots, entre les faits que disent les mots. Enfin, bon, c'est abstrait tout ce que je raconte là, mais quand même, c'est le silence qui permet, c'est s'obliger à ne pas être pris par la musique des mots, par le mécanisme que ça engendre, et il faut se battre avec ça. Et donc, du coup, c'est en repartant à la base, mot après mot, que je peux essayer de retrouver ou de donner l'impression de les découvrir et de les faire partager au fil des phrases.
On dit souvent que pour les comédiens, il est important de ne pas rater son entrée et de ne pas rater sa sortie.
D'une façon générale,
que c'est fondamental et que toute la qualité du spectacle va découler de ses entrées, forcément, et de cette sortie. Mmh. Est-ce que si l'attaque du premier mot du texte ne vous paraît pas sonner juste, vous êtes en difficulté pour la suite,
non,
André Dussolier?
Non, il y a toujours, là, justement, sur la durée, c'est ça qu'offre le théâtre, à l'inverse du cinéma, c'est-à-dire au cinéma, c'est vraiment tronçonné, on peut recommencer les scènes, évidemment, si elles sont pas bonnes, tandis qu'au théâtre, on peut pas recommencer, mais au moins, on a une continuité au théâtre. On raconte l'histoire de A jusqu'à Z, et ma foi, si vous avez, une goutte d'eau sur les cordes vocales au tout début, c'est un peu malencontreux, mais c'est pas pas ça qui va vous empêcher par la suite. Au contraire, vous avez une sorte de réaction physique, animale, j'allais dire, organique presque, qui fait que vous avez envie de reprendre pied et ça vous réveille aussi. Donc du coup, rien n'est jamais perdu. Vous pouvez toujours jusqu'au bout vous offrir et offrir aussi, par voie de conséquence, des moments rares et des moments de partage. Moi, ce que j'adore dans Novecento, c'est vraiment les silences, c'est-à-dire créer une écoute qui soit vraiment très dense, comme si vraiment on ne savait pas ce qui allait suivre, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un suspense magnifique, on ne sait pas du tout ce qui va suivre, comment l'histoire va évoluer, si elle va évoluer de façon légère ou grave ou mélancolique ou dramatique. C'est ça, cette espèce de suspense permanent que j'aime bien créer.
De quelle nature est la vie que vous vivez sur la scène ? Certains acteurs parlent d'une vie augmentée, d'une vie
très juste,
intensifiée. Et je reviens à ce que disait tout à l'heure Alessandro Baricco quand il parlait de cette sorte d'antre dans lequel sont ces héros, entre deux terres, peut-être entre deux mers. Ils sont dans un antre. Est-ce que la vie sur le plateau, c'est un antre qui ne ressemble pas au quotidien à ce qui est à côté de cet antre?
Oui,
antre étant E-N-T-R-E, mais pouvant peut-être aussi s'entendre à N-T-R-E.
C'est très heureux de vous entendre dire tout ça, parce que quand je suis arrivé à Paris et que je voulais faire du théâtre, un des professeurs dans le cours d'art dramatique où j'étais, de Périmonie, nous a dit « Quelle est la qualité humaine que vous préférez ?» 80% des élèves avaient répondu « La vérité ». Nous tous qui allions devenir des menteurs professionnels, entre guillemets, c'était la vérité. Et c'est ça qui est frappant chez les acteurs, c'est que le bonheur d'être vrai dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on dit, et démultiplie la vie, enfin l'augmente beaucoup plus que celle qu'on a l'impression de vivre dans la réalité, où on se masque davantage, où on emprunte, où on triche, où on bifurque, où on slalome. On échappe à son être, à sa vérité profonde, parce que c'est difficile peut-être de dire la vérité à tout moment, tout le temps dans la vie. Donc du coup, ce moment privilégié qu'offre la scène, ou le jeu devant une caméra, eh ben c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de tricherie possible. On est obligé d'être vrai. Et c'est parce que vous êtes vrai au cœur de la cible que le spectateur va pouvoir être ému ou rire. C'est vraiment cette recherche, et c'est vrai que c'est un monde particulier, de vie intense et vraie, qui fait que tout d'un coup, grâce à un auteur qui vous donne à dire des choses essentielles, rares, inattendues, eh bien, vous pouvez partager un moment rare, inattendu, parce que grâce à l'acteur qui va l'interpréter comme s'il était là en train de le vivre.
Mais l'acteur, il devient un peu surhomme sur le plateau théâtre. Est-ce vrai que quand vous montez en scène, vous oubliez la douleur physique, par exemple?
Oui.
Que vous pouvez vous cogner et ne pas ressentir la douleur? Que vous pouvez avoir une bronchite et ne pas tousser? Que finalement, le physique est conditionné par, est soumis à cet état mental très singulier, André Dussolier.
Oui, un acteur n'est jamais malade. C'est vrai, j'ai vu des cas comme ça d'acteurs à faune avant d'entrer en scène. Bon, on fait une piqûre de cortisone, peut-être.
Quand même
bien.
Un peu alors.
Mais
un peu l'aide de la médecine alors.
Oui, mais il peut y avoir des miracles. C'est-à-dire, c'est vraiment animal. Et c'est vrai que tout d'un coup, c'est pas comme si on empruntait la peau d'un autre, mais c'est vrai que ça galvanise ou ça. Et ce spectacle, Novecento, est fatigant. C'est physiquement éprouvant. Vraiment, il faut une grande. Alors, je m'y prépare. Hein. Je me repose. Le repos fait partie du boulot dans la journée, dans la nuit, etc. C'est comme un travail d'athlète quasiment. Mais du coup, ça me donne. J'aime bien posséder toutes les capacités physiques pour pouvoir aller le plus loin possible. Et c'est vrai que à ce moment-là, plus je serai au bout de mes intentions, de mes capacités, plus le sentiment, la voix, plus tout sera confortable pour moi, le spectateur et l'histoire que je raconte.
Mais cette traversée que vous effectuez avec Novecento, traversée d'une vie, puisqu'il ne quitte pas ce bateau, il va y passer sa vie, il va jouer du piano pendant toute sa vie à l'intérieur de ce bateau. Elle vous dépose dans quel état à la fin de la représentation, André Dussolier? Est-ce qu'il y a un phénomène de descente?
Au théâtre du Rond-Point où j'ai joué, où on a créé le spectacle, sur les loges, il y a une sorte d'ardoise, et puis il y a nos noms écrits à la craie. Et la craie, par définition, ça s'efface. Et je trouvais ça assez symbolique du théâtre, quoi. C'est éphémère, ça s'efface. on passe, il y a beaucoup de spectacles au Théâtre du Rond-Point, donc évidemment, je comprends qu'ils mettent des ardoises avec nos noms écrits à la craie sur les loges pour qu'on repère qui habite où habite qui. Et en même temps, voilà, c'est éphémère. Une fois qu'on regagne sa loge, c'est terminé. Alors, il y a une redescente physique, organique, bien sûr. Je peux pas aller me coucher tranquillement comme si je m'étais pas investi. J'étais tellement investi physiquement et mentalement que je redescends sur terre tout doucement. Alors bon, on va chez soi et on fait ce qu'on a envie de faire et on reprend contact avec le réel. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, ouais, c'est tellement éphémère, c'est tellement lié. C'est ça qui est contradictoire au théâtre. Vous avez un rapport avec 700, 800 personnes, 1000 personnes, très intense. Et puis après, c'est fini, c'est terminé. Tout le monde est reparti chez soi et puis vous vous retrouvez dans votre loge. Et puis voilà, c'est la vie. Et j'aime bien ça.
Oui, vous aimez bien.
Oui,
ça vous déprime pas, ça vous rend pas triste,
ça vous laisse pas. Non, non, je suis pas frustré
parce que vous y revenez le lendemain aussi, il faut dire. Donc la frustration, elle est de courte durée.
Vous avez raison. Oui. C'est vrai que je sais que je vais y revenir le lendemain et que je vais rencontrer un peu comme Baricot parle de ses héros, c'est-à-dire des gens le temps d'une croisière, le temps d'une traversée, le temps d'un soir au théâtre, dans une salle de théâtre, et que cette rencontre va être intense. Moi, je me souviens davantage de spectacles de théâtre qui sont mais définitivement dans ma mémoire que certains films. Est-ce que c'est parce que je sais que les films, je vais pouvoir les voir ou les revoir ou aller les regarder en tête, voilà, en face de mon écran de télévision chez moi, tandis que là, le théâtre, c'est unique, c'est un déplacement, c'est une rencontre, c'est un moment unique et des spectacles resteront dans ma mémoire, comme ceux d'Ariane Mnouchkine, de Giorgio Strehler, de Peter Stein, d'Ostermeyer aujourd'hui ou d'autres encore que j'ai vus, et c'est vraiment unique le théâtre.
Il y a une question qu'on ne peut pas ne pas se poser en écoutant et en voyant Novecento, André Dussolier. Je voudrais vous soumettre cette hypothèse, peut-être que vous la réfuterez de bout en bout, mais il y a des mythologies qui existent sur les océans. On peut penser à Ulysse pourfondant les océans pour regagner son chez-soi. On peut aussi penser à Jonas dans le ventre de la baleine. Mais il y a peut-être une autre mythologie qui se construit avec Novecento, qui est celle de ces migrants qui ne peuvent pas accoster là où ils voudraient accoster, qui quittent la terre qui ne veut plus d'eux et qui se retrouvent coincés sur les flots et qui souvent y meurent. Il y a un fil politique qui pourrait être tiré. Je ne sais pas si c'est dénaturé.
Non,
ce texte ou pas,
on
mais
y pense.
Ça s'impose quand même.
Oui, ça s'impose. Et les premiers mots, c'est du texte de Novecento, c'est ça. C'est-à-dire, il parle des migrants qui sont là et qui sont entre deux terres, deux espoirs, une vie la plupart du temps aujourd'hui absolument dramatique qu'ils vivent chez eux et qui les force à partir, à fuir, et dans des embarcations extrêmement aléatoires et dangereuses où ils frôlent la mort à tout le moment. Quoi. C'est vraiment sa vie qu'on joue. C'est la même chose en 1930, mais c'était beaucoup plus sécurisé, c'était beaucoup moins inquiétant, même si les règles étaient importantes et la difficulté d'aller dans un autre pays aussi grande. Mais là, c'est encore plus dramatique aujourd'hui et évidemment qu'on y pense. C'est pas la même chose, évidemment, la manière de raconter les choses là. Dans Novecento, ça se passe en 1930, l'époque est différente. Mais bien sûr qu'il y a cet entre-deux-terres dont vous parliez, dont Baricot parle, cet espoir à la fois. Je me souviens d'une phrase que dit Novecento, c'est-à-dire que lui, il aimait bien être sur la mer, en voyant la terre au loin, qui ont les lumières qui sont à la fois le souvenir et puis aussi l'espoir. Et c'est vraiment une instabilité et des moments de vie. Là, pour le coup, on a hâte de trouver un point et un centre de gravité.
Pour terminer sur aussi de la légèreté, il paraît que Tanguy revient.
Oui,
c'est le retour de Tanguy au cinéma, André Dussolier. Oui. Il est revenu vivre chez ses parents, Sabine Azéma et vous-même. Éric Berger est de retour.
Oui, Tanguy sera
Étienne
toujours Tanguy.
Chatillès a de nouveau frappé.
Voilà, exactement. Tanguy, c'est sa nature. Faut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors en l'an 2000, ça pouvait... mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de Tanguy. C'est vrai pour des raisons économiques, d'ailleurs, où les enfants reviennent chez les parents. Mais là, bon, Tanguy, c'est... Ah oui, on l'avait laissé en Chine, assez loin. On pensait que, franchement, on allait être tranquille, pouvoir vivre une vie de jeune couple. Et puis, bon, il sonne un jour à la porte. Et là, Tanguy, il génère des catastrophes.
Ah, si Roland Barthes était là, il le ferait rentrer dans ses petites mythologies contemporaines. Lui aussi, il en fait partie.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci
à vous, André
Merci
Dussolier, beaucoup. D'être passé nous voir au micro d'une saison au théâtre. Je rappelle donc que Novecento, d'après Alessandro Baricot, se joue au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 31 mars. Que vous avez pour ce spectacle remporté le Molière du meilleur comédien en 2015, mais que de toute façon, avec ou sans Molière, tous les auditeurs doivent vous voir jouer Novecento.
voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire.
Vous pouvez, et même, vous devriez podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Il chante la terre.
Vanessa Nadjar, Ludovic Auger, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de Cause à Effet. Excellent dimanche à vous tous.
Pendant des journées entières, il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tout de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Et voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante.